Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Nicolas Sendé, Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde par notre héros du jour, Anthony Thomasson. Deuxième temps de notre série consacrée aux leaders mondiaux à l'épreuve de ce Covid-19. Après avoir évoqué hier Angela Merkel et la consécration relative du modèle allemand en Europe, avant de nous intéresser demain aux États-Unis où la pandémie a joué un rôle déterminant dans l'élection présidentielle, et puis jeudi à la Nouvelle-Zélande où la première ministre Jacinda Ardern a acquis une nouvelle stature grâce à sa gestion saluée du virus, tournons-nous aujourd'hui vers ce pays où tout a commencé, la Chine. Xi Jinping, de coupable désigné à vainqueur proclamé, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Aujourd'hui, la Chine se consacre activement à la coopération internationale contre la Covid-19 et contribue par ses efforts à la préservation de la santé publique mondiale. Nous continuerons de partager avec tous les pays nos expériences en matière de contrôle des épidémies, de diagnostic et de participer activement à la recherche scientifique mondiale sur l'origine du virus et ses modes de transmission.
Oui, je crois qu'il y a des gens qui pensent que c'est la faute de Wuhan s'ils doivent rester à la maison. Et maintenant, ce sont les Wuhanais qui font la fête. On a le droit de faire la fête. Ce n'est pas juste, mais je pense que ce n'est pas la décision d'une seule personne. C'est un pays, c'est la coordination du gouvernement et de tous les Chinois qui a permis cela. Donc, pour les gens jaloux, je leur propose de s'informer de ce que nous avons fait ici et de suivre notre exemple.
Extrait du discours triomphaliste de Xi Jinping à l'Assemblée générale des Nations Unies le 22 septembre dernier. Et puis on entendait également Matt Yang, un jeune fonctionnaire de Wuhan. Le président Xi Jinping ne cesse de le répéter. Son pays a vaincu l'épidémie et peut désormais servir d'exemple au monde entier. Selon les chiffres officiels, le Covid-19 n'a fait que 4634 morts en Chine et plus aucune contamination locale n'y a été enregistrée depuis la mi-août. Les seuls cas signalés étant des cas importés. Wuhan, ville martyre glorifiée pour ses 76 jours de confinement total, se veut désormais la vitrine du monde d'après, entre fêtes géantes démasquées et expositions exaltant l'efficacité de la réponse communiste à l'épidémie. Car la mise en scène de la victoire chinoise sur le virus n'est pas seulement nationaliste, elle est également idéologique. C'est bien un modèle de société et de gouvernance, le socialisme à la chinoise, qui aurait permis de traverser une crise sanitaire face à laquelle les démocraties occidentales seraient-elles impuissantes? C'est en tout cas ce que montrent les médias chinois à longueur de JT. Alors comment Xi Jinping, que l'on croyait affaibli en début d'année, au moment où le monde entier reprochait à la Chine son manque de transparence, a-t-il réussi à retourner la situation à son avantage? Dans quelle mesure sa gestion de l'épidémie lui permet-elle de renforcer la personnalisation du pouvoir en Chine? Son triomphalisme ne risque-t-il pas d'agacer sur le plan international des pays dont certains tiennent encore la Chine pour responsable de la propagation du virus? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Alice Ekman. Bonjour Alice Ekman.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes analyste responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne et vous avez signé récemment Rouge vif, l'idéal communiste chinois, paru aux éditions de l'Observatoire, pour lequel vous avez été doublement primé, prix du livre géopolitique et prix aujourd'hui. Je vous en félicite tous. Et puis également avec nous, depuis Hong Kong, Jean-Pierre Cabestan. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous, Jean-Pierre Cabestan. Vous êtes professeur à l'Université Baptiste de Hong Kong, directeur de recherche au CNRS. Vous aviez signé, vous, récemment, « Demain la Chine, démocratie ou dictature ?» pour l'interrogation, c'était paru chez Gallimard. Peut-être pourrions-nous commencer par faire un petit point de situation, parce qu'il est toujours difficile d'avoir des chiffres fiables en Chine. C'est valable sur les questions sanitaires, mais c'est aussi valable sur les questions économiques, on le dit souvent. Officiellement, je le disais, la Chine n'a presque plus de cas de Covid, quelques dizaines de cas d'hospitalisation, une trentaine de nouveaux cas par jour détectés, en tout cas ces derniers jours. Est-ce que ça correspond, Jean-Pierre Cabestan, à la situation sanitaire du pays aujourd'hui? Le virus ne circule quasiment plus aujourd'hui, Jean-Pierre Cabestan?
Écoutez, on n'en sait trop rien. Je serais très prudent avant de lancer dans une conclusion définitive sur cette question, parce que vous avez des foyers qui réapparaissent ici et là. Il y a eu un foyer à Qingdao, au Shantong, qui est réapparu il y a quelques semaines. En ce moment, il y en a un à Kashgar, partie du Xinjiang, où la plupart des observateurs étrangers n'ont pas le droit de se rendre. Donc il y a des choses qui... Et puis là, aujourd'hui même, à Shanghai, on a repéré un cas apparemment importé, mais enfin qui s'ajoute au cas déjà identifié. Bon, maintenant, si vous incluez Hong Kong à la Chine, vous avez quand même une dizaine de cas par jour à Hong Kong. Donc, et d'où la fermeture, le maintien de la fermeture de la frontière entre Hong Kong et le continent, d'ailleurs. Donc, les chiffres sont pour apprendre avec des pincettes. Cela étant, même si on les multiplie par 4 ou 5, ils restent quand même très, très inférieurs aux chiffres qu'on a connus qu'on a connu en Europe ou aux États-Unis. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la crise a été très vite gérée, notamment à Wuhan et au Hubei, qui ont été isolés du reste de la Chine de manière très radicale, et ce qui a permis effectivement une prise de contrôle du virus beaucoup plus rapide.
Ouais, même si on multipliait par 10 le nombre de morts annoncés officiellement, ça n'empêche que la Chine serait proportionnellement beaucoup moins touchée que les pays occidentaux. Alice Ekman, au-delà de ces discussions autour des chiffres, force est de constater que les choses sont à peu près maîtrisées, qu'il n'y a pas de deuxième vague comme on le connaît, nous, en Europe. Alors, mettons pour le moment un tout petit peu de côté la question de la communication des autorités, qui est évidemment très importante, on va y venir, de l'instrumentalisation politique aussi qui a été faite de tout ça. Mais si on revoit un peu les choses a posteriori, qu'est-ce qui, au fond, a permis au pays d'endiguer la diffusion du Covid ? Avec le recul, qu'est-ce qui a fait la différence ?
Alors, il faudrait, je pense, en effet, nuancer l'efficacité du mode de gestion chinois, parce qu'aussi, en effet, d'autres pays asiatiques ont géré la crise avec une certaine efficacité. On pourrait parler de la Corée du Sud, de Taïwan, notamment aussi du fait que ce sont des pays qui ont déjà été confrontés à des virus, notamment l'épidémie du SRAS auparavant. Et donc, il y avait quand même une certaine méfiance et aussi une certaine préparation par rapport à ce type d'épidémie, même si celle-ci est bien différente de la précédente. Mais pour répondre plus précisément à votre question, c'est un maillage géographique très strict du territoire, avec une prédominance du parti dans toutes les institutions et finalement les structures de la société, et en premier lieu les comités de quartier qui surveillaient les allées et venues des habitants, avec aussi des contrôles extrêmement stricts dans les universités, dans les hôpitaux, et puis bien sûr aussi une fermeture des frontières à un certain moment, et une mise en quarantaine très stricte, et encore maintenant pour les étrangers qui se rendent en Chine. Donc c'est une gestion du territoire, on peut dire aussi des moyens de surveillance extrêmement forts. Je pense pas qu'ils sont à envier. Et justement, il y a différentes façons de gérer cette épidémie. Et après, il y a la question de l'usage des technologies, mais on a vu que l'usage des technologies varie d'un pays à l'autre. D'autres pays, encore une fois, tels que la Corée du Sud, ont utilisé des technologies en étant moins intrusifs. Mais c'est sûr que la Chine, à un certain moment, a utilisé des technologies qui étaient préexistantes avant la crise du Covid, et qui ont été affinées et ajustées pour, par exemple, suivre les déplacements, l'historique des déplacements des individus, ensuite avec qui se matérialise par des codes QR présentés au début, à l'entrée des centres commerciaux ou des résidences, l'interdiction pour les visiteurs étrangers de rentrer dans ces résidences, etc., etc. Oui. Donc c'est un maillage géographique très particulier du territoire.
Mais alors, Jean-Pierre Cabestan, pour justement réagir au propos d'Alice Ekman, il y a évidemment ce qu'elle dit, c'est-à-dire le contrôle de l'État qui est extrêmement strict. Il y a l'usage effectivement des technologies dont on a énormément parlé, l'utilisation de caméras, de drones, etc., etc. Mais est-ce qu'au fond, on ne sous-estime pas autre chose qui est l'implication tout simplement de la société dans cette lutte contre le coronavirus ? C'est-à-dire qu'il y a évidemment le contrôle par le truchement de technologies extrêmement poussées, mais il y a aussi tout simplement, peut-être beaucoup moins médiatisé, des bénévoles, des voisins qui sont tout à fait prompts à assurer une forme d'autocontrôle. Et derrière, la conviction assez largement partagée en réalité, qu'on fait confiance aux autorités, que l'État gère tout cela et que voilà. Jean-Pierre Cabestan.
Oui, il y a un peu de tout ça, mais alors Il faut se méfier des clichés. Vous savez, l'Orient collectif par rapport à l'Occident individualiste. Je pense que l'expérience qu'évoquait Alice tout à l'heure du SRAS il y a 17 ans est importante et a touché, à mon avis, à l'ensemble, enfin la Chine, mais aussi Hong Kong, Taïwan et d'autres parties de l'Asie orientale. Donc ces pays sont quand même mieux préparés à cette nouvelle crise. Une autre chose, c'est que le port du masque en Asie orientale est quand même beaucoup plus répandu. Hein, et puis... Et les gens sont plus prudents de manière générale, plus, on dirait en anglais, risk adverse. Hein. Je crois que pour eux, la sécurité sanitaire est beaucoup plus prise au sérieux qu'en Europe. Et ça traverse, si vous voulez, les différences de régime politique.
Il y a une chose justement qui est très spécifique à la Chine. Il y a une chose qui est très spécifique à la Chine qu'on a vue, parce que contrairement à un certain nombre de populistes et autres autocrates qui ont pu parfois remettre en cause la réalité de cette crise sanitaire, les noms ne manquent pas. Du côté de Xi Jinping, c'est tout l'inverse. On remet jamais en cause la réalité scientifique de tout cela. Au contraire, on s'appuie sur les études scientifiques, on écoute les scientifiques, et ça, évidemment, ça participe aussi de cette acceptation de la société civile. C'est très important, évidemment.
Oui, bien sûr, mais je commençais par dire qu'on les a pas tout de suite écoutés.
Oui, vous avez raison.
Il y a eu quand même du cafouillage au début, hein, l'affaire Landiawen au début, quand même. Et certains ont été inquiétés pour avoir justement rendu public la réalité de l'épidémie. Le gouvernement central a réagi avec quand même pas mal de retard, et ce qui a contribué à l'internationalisation de la crise. Hein. Il faut quand même, la Chine est en partie responsable de cette de cette mondialisation du virus. Donc après, évidemment, ils ont beau jeu de dire qu'ils sont les premiers sortis de la crise. Cela étant aussi, alors parmi les voix dissonantes qui ont été réprimées ou tout au moins ostracisées, vous avez le journal de Feng Feng qui a été traduit en français maintenant, que vous pouvez lire et qui raconte quand même tous les problèmes que les gens de Wuhan ont. On a dû affronter au début de la crise, hein, en janvier, février et mars, et c'était quand même pas une partie de plaisir. Donc, il y a eu un coup quand même social, et je pense qu'il y a eu un moment de doute. On dit que Xi Jinping est sorti renforcé de cette crise, oui, à terme, mais au début, il y a eu en février un moment de doute et d'inquiétude, et il a fallu vraiment mobiliser le parti avec tout le maillage qu'évoquait Alice. Hein. Pour reprendre la situation en main et puis sortir de la crise.
Alors justement, on va essayer de regarder comment on s'y est pris pour sortir de cette crise politique, moins la crise sanitaire, mais la crise politique. Alice Ekman, il y a peut-être des choses à décrire sur ce qui a été fait du côté de Xi Jinping pour retourner un peu la situation. Il y a tout le volet propagande qu'on a beaucoup discuté. Mais il y a aussi un volet qu'on connaît moins, qui concerne ce qu'on appelle la sécurité politique du côté de la Chine, c'est-à-dire s'assurer précisément que l'on maîtrise bien les voix dissonantes. Il y a une décision qui a été prise suite à cette crise sanitaire, c'est la création d'une nouvelle division consacrée à la sécurité politique. Elle sera visiblement supervisée, je crois qu'elle est déjà d'ailleurs mise en place, par un homme qui s'appelle Lei Dongsheng, qui est l'ancien secrétaire adjoint de la Central Political and Legal Affairs Commission, qui est vraiment l'organe qui est chargé de superviser toutes les forces de sécurité du pays. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur comment on interprète la création, la mise en place de cette nouvelle entité? Qu'est-ce que ça nous dit peut-être des ambitions de Xi Jinping en matière de nouvelles ambitions de Xi Jinping en matière de sécurité politique? Et je mets la formule entre guillemets, Alice Ekman.
Oui, de toute façon, tout d'abord, il faudrait remettre en contexte ces vagues de recadrage, parce que depuis son arrivée au pouvoir fin 2012, Xi Jinping n'a cessé de lancer des mouvements de cadrage politique, disciplinaire, idéologique, sous couvert de l'étiquette anticorruption. Et en fait, cela ne s'est pas arrêté pendant la crise, bien au contraire. À l'été dernier, on a observé une nouvelle campagne de recadrage des institutions de sécurité, en effet, et aussi du système judiciaire. Et donc, ces vagues de cadrage continu sous la houlette de la commission de la discipline, et s'est instauré au cours des 7 dernières années un sentiment de peur très fort au sein du parti, notamment au sein des cadres du parti. Pour Xi Jinping, c'est une tendance de long terme qui s'est accélérée pendant la crise parce qu'il avait un risque. En effet, en février, notamment sur Internet, suite en particulier au décès du docteur Li Wenliang, un des docteurs qui avait donné l'alerte sur le virus, ce décès avait ému le pays et donc de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux avaient émergé, notamment des commentaires critiques. Très vite, il y a eu la dimension, en effet, communication-propagande qui a vite ajusté le tir pour faire le ménage sur Internet, faire taire ce que le parti appelle les rumeurs et très vite, la communication officielle a pris le dessus sur l'efficacité du parti à gérer cette crise. Et puis, au sein même des hôpitaux, des universités, il y a encore une direction bicéphale, hein, avec une direction scientifique qui est supervisée par la direction politique, la direction du parti. Et c'est cette hiérarchie qui a été renforcée ces derniers mois, mais qui était déjà très claire auparavant et qui a, en particulier, compte tenu du sentiment de peur qui existe dans de nombreuses institutions, ralenti la transmission de l'information entre les scientifiques et les politiques. Les scientifiques ayant peur du politique. En tout cas, la direction politique est toujours présente, étant toujours présente dans les hôpitaux. Mais oui, aujourd'hui, Xi Jinping prépare l'avenir, puisque si l'on regarde le calendrier, 2021, donc dans quelques mois, sera le centenaire du Parti communiste chinois. Donc ce sera une année de célébration très importante qui permettra aussi au parti de montrer qu'il est, définitivement sorti de cette crise. Et puis surtout, en 2022, c'est l'année du 20e congrès du Parti communiste chinois, moment important pour le renouvellement de l'équipe dirigeante et probablement, dans le cas de Xi Jinping, le prolongement de son mandat au-delà de 10 ans suite à l'amendement de la Constitution en 2018 qui a mis fin à la limite de temps du mandat présidentiel. Donc on a toute une série d'échéances là qui amènent Xi Jinping à vraiment préparer le terrain au maximum, limiter au maximum les divisions internes au sein du parti et renforcer, maintenir ce sentiment de peur extrême réellement qui existe aujourd'hui, qui est parfois sous-estimé d'un point de vue extérieur, mais aujourd'hui il faut vraiment se tenir à carreau au sein du parti, car la surveillance mutuelle a été renforcée au sein du parti et elle est elle-même aidée par une surveillance technologique et donc on ne peut pas dire que le Covid n'a pas suscité de critiques ou de on va dire d'agacement, de ressentiment interne, mais l'expression de ce ressentiment aujourd'hui n'est pas visible tellement la peur est omniprésente au sein du parti.
Oui, il faut dire que justement, ce sur quoi on insiste, c'est l'idée que la Chine a merveilleusement rempli sa mission et que le régime a merveilleusement fait face à cette crise sanitaire. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir avec cette grande cérémonie qui a eu lieu dans le Grand Palais du Peuple à Beijing le matin du 8 septembre, qui honorait les individus et les organisations exceptionnelles dans la lutte contre le Covid-19. Écoutez.
Tout faire pour la santé et pour sauver des vies, c'est la responsabilité d'un médecin. Notre mission est de protéger la santé et la vie des gens. J'ai eu la chance d'assister au progrès du système de services médicaux et de santé de la Chine. J'ai également été témoin de la façon dont la République s'est développée à partir d'un pays pauvre. Je suis sincèrement fier et reconnaissant envers le parti et le peuple.
Voilà, ça c'est l'une des personnalités mises en avant par Xi Jinping lors de cette cérémonie de victoire contre le Covid, en l'occurrence le docteur Zhong Nanshan, spécialiste des maladies infectieuses, qui a été récompensé par la médaille de la République, mais il y en a eu d'autres, hein, Zhang Boli, Zhang Dingyu, Chen Wei, la femme médecin militaire qui a dirigé une équipe pour développer le premier vaccin potentiel de la Chine contre le virus. Ça c'est pour ce qui est de la scène, Jean-Pierre Cabestan. Pour ce qui est de ce qui se passe à l'intérieur du parti, il faut peut-être évoquer ce qu'il s'est passé fin octobre, c'est-à-dire la tenue de ce comité central du Parti communiste chinois qui s'est réuni pour adopter son 14e plan quinquennal pour la période 2021-2025. Alors là, on a moins d'informations, mais qu'est-ce qu'on sait déjà, Jean-Pierre Cabestan, et en particulier sur ce que pourrait être l'avenir politique de Xi Jinping. En général, en Chine, les leaders restent une dizaine d'années. Il arrive officiellement à son deuxième mandat à la fin 2022. Donc, a priori, on pourrait commencer à préparer un renouvellement de la classe politique. C'est traditionnellement ce qu'on fait deux ans avant le grand comité qui change justement les responsables. Est-ce qu'on a senti dans ce comité central la préparation de la suite de Xi Jinping, Jean-Pierre Cabestan?
Non, non, ce qu'on a surtout préparé, c'est la continuation du règne de Xi Jinping, hein, et sa consolidation, comme le disait Alice. On a eu cette révision de la Constitution il y a 2 ans, et Xi Jinping s'est bien gardé de nommer ou de pressentir un successeur. Et donc, on pense qu'il restera au pouvoir encore au moins 5 ans, sinon plus, hein. Et donc, le cinquième plénum qui a eu lieu là, qui est la réunion du comité central, est en général, après chaque congrès, le cinquième plénum est en général consacré à l'économie et au prochain plan quinquennal. Donc là, il n'y a pas eu, de surprise. Là, peut-être que parfois, lors d'un plénum comme celui-ci, vous avez quelques nominations marginales, mais ça n'a pas été le cas cette fois-ci, mais c'est pas l'élément principal. L'élément principal, c'est de recentrer la stratégie de développement économique sur ce qu'on appelle les deux circulations. En fait, c'est surtout la tâche principale consiste à stimuler la consommation intérieure tout en continuant de stimuler l'exportation, renforcer la priorité donnée aux nouvelles technologies et à l'acquisition de ces nouvelles technologies. Moins par la coopération internationale qui est aujourd'hui plus difficile en raison des restrictions imposées par les États-Unis mais aussi les Européens, mais par le développement autocentré, autonome, hein, et donc par un gros investissement en recherche et développement par les autorités chinoises afin de pouvoir développer par elles-mêmes les technologies que les Américains ou les Occidentaux ne veulent plus transférer à la Chine. Et je pense aux puces, notamment les plus sophistiquées dans le domaine informatique, et ça va poser des difficultés à un nombre d'entreprises, notamment Huawei, hein, qui ne peuvent plus fournir en puces les plus sophistiquées auprès des États-Unis ou des partenaires des États-Unis, notamment Taïwan. Donc, voilà un peu le nouveau contexte. Ceci dit, la croissance économique chinoise restera pour cette année de 2%, hein, ce qui est quand même en contraste avec les récessions que l'on observe dans une grande partie du monde. Et donc, la situation n'est pas si mauvaise que ça en Chine, principalement encore tirée, c'est ça le paradoxe, par les exportations, une reprise des exportations, plutôt que par une relance de la consommation qui peine à démarrer. Parce que, en fait, beaucoup de Chinois sont beaucoup plus pauvres qu'on le croit, hein. Il y a eu un chiffre qui a été rendu public il n'y a pas très longtemps par le Premier ministre Li Keqiang, indiquant que plus de 40% des Chinois, donc 43% exactement, 600 millions de personnes, gagnent moins de $150 par mois. Donc ça fait 150 euros à peu près, même un peu moins. Donc beaucoup de gens ne sont pas riches en Chine. Et donc quand on parle de l'émergence des classes moyennes, ça ne touche vraiment, si on pense classe moyenne supérieure, que 60 millions de personnes, ce qui est pas mal pour la Chine, mais enfin, qui laisse derrière quand même beaucoup de gens.
Et justement pour ces gens-là, et ensuite je vous donne la parole à Alice Ekman, mais pour ces gens-là, vous dites 600 millions de personnes qui touchent moins de $150 par mois. On imagine évidemment que cette crise, même si vous avez raison, une croissance d'environ 2%, c'est la prévision du FMI, c'est pas si mal quand on regarde les autres, quand on regarde le recul de plus de 4% du côté des États-Unis, de plus de 8% dans la zone euro, c'est pas si mal du côté de la Chine. Il n'empêche que la situation sociale des plus précaires s'est dégradée et risque de continuer à se dégrader. Et donc, pour des centaines de millions de citoyens, c'est de plus en plus difficile de se loger, de rembourser ses dettes, de payer l'école des enfants, etc. etc. Qu'est-ce qui a été fait pour ces personnes en particulier, pour cette précarité, cette nouvelle précarité, Jean-Pierre Cabestan ?
Avant tout, le maintien de l'emploi. Les entreprises n'ont pas le droit de licencier les personnels. Et donc, que ce soit les entreprises publiques d'ailleurs ou les entreprises privées, et donc les gouvernements locaux viennent en aide à ces entreprises afin que elles conservent leur personnel, parce que ce que craint le plus le gouvernement, c'est une remontée du chômage du fait d'une baisse d'activité qu'on a bien vu partout et qui touche effectivement aussi la Chine. Donc là c'est la priorité des priorités, et toutes les informations que je reçois du continent vont dans ce sens-là. C'est vraiment le maintien de l'emploi coûte que coûte.
Alice Eggman, je vais vous faire réagir sur l'avenir politique de Xi Jinping, mais c'est vrai que depuis longtemps qu'on discute les enjeux chinois, on évoque souvent ce pacte social qui existe, qui lie le pouvoir aux citoyens. En gros, nous vous apportons la croissance et la prospérité, et en échange, pas de revendications concernant la démocratie et les droits de l'homme. Est-ce qu'il vous semble que les difficultés économiques du pays, même si une fois encore, il faut les relativiser quand on regarde le reste du monde, il n'empêche qu'elles sont là, que la précarité augmente, que pour les plus fragiles aussi en Chine c'est difficile. Est-ce qu'il vous semble que tout cela pourrait remettre en question ce contrat social, Alice Eggman ?
Je ne suis pas sûre. En effet, moi je pense quel que soit le ralentissement de l'économie, tout d'abord il faut regarder en effet en termes comparés hein, par rapport à d'autres économies. Et la propagande chinoise joue vraiment sur cette comparaison en n'hésitant pas à souligner le taux de chômage aux États-Unis, à diffuser au journal télévisé de 19h des images de rues de New York complètement vides, les sans-abri, en soulignant vraiment ce contraste, en soulignant aussi les faiblesses de l'Europe.
Ce qui est une réalité, Alice Eggman.
Bien sûr, c'est une réalité. Après, à quel point a été exploité par la communication officielle pour creuser justement ce contraste entre une Chine forte et une Europe ou des États-Unis faibles. Ça, et après, il y a une utilisation de la réalité, une exploitation aussi de ces images. Mais le parti joue aussi sur autre chose que le redressement économique comparé. Il joue aussi sur la modernisation comparée, c'est-à-dire en montrant par exemple Shenzhen, ville ultra connectée, Silicon Valley chinoise, montrant que la Chine finalement devient plus moderne, plus technologique que la vieille Europe, archaïque, pas connectée, qui ne sait pas mettre en place les stop Covid et équivalents, les applications, etc. Et la Chine joue beaucoup, beaucoup là-dessus. Et une autre carte sur laquelle le parti investit, c'est la carte nationaliste, hein, c'est-à-dire une Chine, le renouveau de la nation chinoise, une Chine qui se redresse après avoir été trop longtemps humiliée par les Occidentaux, avec des références fréquentes dans les livres scolaires aux guerres de l'opium, avec aussi ce ressentiment anti-américain qui cadre et qui imprègne la formation justement de l'élite du Parti communiste chinois et qui est aussi retransmise par des séries télévisées, des films, des concerts à la télé, etc. Là, il y a vraiment une utilisation. Et puis, Xi Jinping a bien dit que les artistes et intellectuels devaient glorifier le Parti communiste chinois. Et aujourd'hui, cette glorification est au service du renouveau, et on peut dire le renouveau post-Covid. Et donc, on est vraiment là. C'est pour ça que le gouvernement chinois communique massivement sur même, y compris les fêtes organisées à Wuhan, les expositions. Là, il y avait un concours de jeux vidéo bientôt, enfin pas tout de suite, mais il y aura les jeux d'hiver de Pékin, normalement prévus en 2022. Il y aura une communication massive autour de ces événements pour vraiment montrer que la Chine est plus moderne, plus forte que les autres pays, et ça va être vraiment une glorification technologique, parce que ce point-là est important à l'heure de la 5G, de la compétition autour de la 5G, de ce qu'on pourrait appeler l'émergence d'un découplage technologique entre les États-Unis et la Chine. La Chine aujourd'hui souhaite réellement investir, parce que, comme vous vous souvenez, au lendemain de la crise économique et financière 2008-2009, la Chine avait lancé un plan de relance tourné vers des infrastructures traditionnelles, des ponts, des autoroutes, des routes, etc., des investissements, les travaux publics, etc. Aujourd'hui, le plan de relance va passer par une nouvelle technologie, développement, renforcement du réseau 5G sur le territoire chinois, d'un réseau blockchain supervisé par le parti compatiblement politique et avec des crypto-monnaies, avec une série de centres de données ultra connectés, avec aussi le développement du réseau satellitaire chinois Beidou et la version numéro 3 qui est sortie l'été dernier. Enfin, développer l'un dans l'autre un écosystème de technologies qui ne dépendra plus à terme, hein, à moyen et long terme, des composants et services américains, mais aussi européens et étrangers au sens large. Aujourd'hui, en effet, la Chine accuse le coup, notamment des sanctions économiques et technologiques, notamment concernant les semi-conducteurs. Mais à terme, vraiment, et dans quelques années, l'objectif pour la Chine, c'est d'être autonome technologiquement sur son territoire, mais aussi de promouvoir et d'exporter des écosystèmes technologiques, notamment sous la forme de smart cities, à un nombre croissant de pays, notamment des pays considérés en développement. Et ça, c'est très important, parce que si la Chine et se redresse, comparativement, l'économie chinoise se redresse plus vite que l'économie américaine ou européenne, elle pourra consolider à terme assez rapidement son statut de deuxième puissance économique mondiale et même réduire l'écart avec la première puissance économique mondiale, parce que l'objectif pour Xi Jinping, c'est avant 2035 de dépasser les États-Unis comme puissance numéro un, puissance économique, première puissance économique mondiale. Donc il y a vraiment une compétition économique qui ensuite se traduit comme par une compétition technologique, mais aussi une compétition entre modèles de gouvernance et systèmes politiques.
Même s'il peut y avoir aussi des limites, justement, à ce développement. Jean-Pierre Cabestan, sur justement cette ambition de Xi Jinping de rattraper, de dépasser l'économie américaine, de s'appuyer justement sur les pays en développement pour justement développer sa propre économie. Est-ce que tout cela n'a pas sa limite? Si on regarde un fait qui est arrivé là il y a très peu de temps, très peu de jours, la branche de services financiers d'Alibaba, qui est le géant du commerce électronique, devait faire son entrée en bourse il y a quelques jours, et finalement, au tout dernier moment, ça a été suspendu avec une modification de la réglementation financière. Est-ce que c'est un simple fait comme un autre? On ne s'inquiète pas, tout ça va de toute façon rentrer dans l'ordre et à terme, cette branche de services financiers d'Alibaba va rentrer en bourse? Ou est-ce qu'on peut aussi le voir comme une limite du développement de l'économie privée? Je mets des guillemets à la formule, mais c'est-à-dire qu'on a bien ça aussi du côté de la Chine, c'est que toute l'économie est plus ou moins liée à l'État. Pour espérer s'exporter, pour espérer gagner, se diffuser dans l'ensemble de l'économie mondiale, il faut permettre cette autonomisation de cette économie privée. Est-ce que là, ce fait-là n'est pas aussi le signe que tout cela a des limites en réalité, Jean-Pierre Cabestan? Et que donc peut-être le projet de dépasser l'économie américaine n'est pas aussi simple que cela?
Oui, alors le projet de dépasser l'économie américaine ne repose pas seulement sur l'essor du secteur privé, il repose aussi sur la maîtrise des technologies. Et pour faire écho à ce qui est dit à l'instant Alice, il y a un certain nombre de technologies que la Chine maîtrise, mais la Chine est en retard dans bien des domaines, hein, dans le domaine des réacteurs d'avions, dans le domaine des machines-outils, enfin il y a plein de domaines où elle est encore, ou même de la biotechnologie, elle est derrière l'Europe, derrière les États-Unis. Donc elle a réussi à marquer une avance en, par exemple les services financiers ou le paiement électronique, mais dans d'autres secteurs elle est encore en retard. Donc il y aura un gros investissement qui est nécessaire. Et puis le problème d'Alibaba que vous venez d'évoquer est grave, parce que ce que ça montre, c'est que lorsqu'on est trop, qu'on est une entreprise privée, qu'on est trop puissant, on devient une menace pour le Parti communiste. Et donc, en plus, Jack Ma, le patron d'Alibaba, a fait preuve d'arrogance par rapport au parti, et donc en traitant les banques d'État de boutiquiers, hein, pour faire. Il était prêt à prendre des risques que le gouvernement voulait pas prendre. Et là, il y avait un autre problème qui était vraiment le risque financier. C'est-à-dire, en développant sa filière de fintech, Alibaba pouvait accroître le risque financier, l'équilibre financier de la Chine. Et donc ça, c'était un vrai problème. Maintenant, la question à laquelle on peut pas répondre, c'est pourquoi le gouvernement chinois réagit aussi tardivement. Est-ce que c'est pas en raison des propos que Jack Ma avait tenus une semaine avant, ou est-ce que c'est pourquoi a-t-il tardé autant? Alors je pense qu'une des réponses est le fait qu'il était, le gouvernement était mobilisé avec le cinquième plénum et avait d'autres chats à fouetter qui étaient occupés de ce projet, mais ça fait mauvaise impression à la fois sur la bourse de Hong Kong, mais aussi sur la bourse de New York. Et ça a terni quand même l'image d'une Chine qui avançait de manière sans faille vers le progrès et le rattrapage des États-Unis. C'est un sérieux problème.
Encore un mot peut-être, Alice Ekman, avant de nous intéresser au Vietnam et d'accueillir Benoît de Tréglaudet, mais vous nous disiez tout à l'heure, Alice Ekman, comment Pékin utilisait les difficultés économiques des Occidentaux pour expliquer que son modèle était le meilleur modèle. J'imagine que l'imbroglio des élections américaines a offert une nouvelle opportunité pour critiquer le modèle américain, pour critiquer la démocratie. Mais au-delà de ça, À l'arrivée, on a a priori un nouveau président qui est Joe Biden. On sait combien l'arrivée de Donald Trump avait été difficile du côté de la Chine. D'abord, on comprenait manifestement pas très bien son fonctionnement, ni ses codes. Donc, il y a d'abord eu un premier moment d'adaptation. Et puis ensuite, on a une administration américaine qui a lancé une offensive commerciale inédite contre la Chine. Comment est-ce qu'on a accueilli la victoire de Joe Biden? Est-ce qu'on se réjouit? Est-ce qu'on se méfie? L'impression générale, c'est quoi, Alice Ekman?
Alors, la communication officielle se réjouit pas du tout. Hein. Elle continue encore aujourd'hui à souligner que Donald Trump s'oppose aux résultats, les conteste. En fait, la Chine, la communication officielle chinoise souligne vraiment les oppositions et ne prend pas acte du résultat des élections. Et sur le plan la politique, au-delà de la communication, je pense réellement que la rivalité Chine-États-Unis va continuer, même si au niveau de la forme, il pourrait y avoir des petits ajustements, parce que certainement que Joe Biden sera moins direct, et notamment dans sa communication en ligne que son prédécesseur. Mais pour la Chine, là, la vision est de long terme. Elle a pris acte de ce qu'on appelle, encore une fois, le découplage, c'est-à-dire elle a pris acte que maintenant, il faut limiter sa dépendance au marché américain au maximum, parce qu'il y a des sanctions importantes, des sanctions commerciales, des sanctions technologiques, qu'il existe aussi une compétition diplomatique dans les organisations multilatérales, et qu'il faut vraiment tracer sa route au maximum indépendamment du président en place, parce que finalement ce président, d'un point de vue chinois, il sera en place jusqu'à 2024. 2024, Xi Jinping devrait être encore au pouvoir à ce moment-là. Donc pour la Chine, réellement, aujourd'hui, l'objectif est de redoubler les investissements, la recherche et le développement, pour pouvoir être de plus en plus autonome et de moins en moins dépendant du marché américain, parce que pour l'instant cette dépendance reste forte. Et à terme, l'objectif réellement est d'éroder ou d'affaiblir l'alliance, notamment les liens transatlantiques. Alors c'était plutôt facile lorsque Donald Trump était au pouvoir, parce que lui-même ne manageait pas toujours ses alliés, qu'ils soient européens ou qu'ils soient asiatiques. Cela va changer avec Joe Biden, qui a officiellement appelé les alliés, rassuré les alliés dans la région dans sa campagne par différentes communications, en expliquant qu'il allait resserrer les liens, les partenariats. Mais en même temps, Joe Biden a parlé de la question des droits de l'homme, mais c'est le sujet qui risque aussi de maintenir de vives tensions entre Pékin et Washington. La question du Xinjiang, la situation à Hong Kong, la question aussi du Tibet, qui pourrait revenir sur le devant de la scène avec Joe Biden, qui rencontrera le Dalai Lama. Donc l'un dans l'autre, on s'engage là dans une rivalité de long terme dont la Chine prend acte et réellement prépare au maximum pour pouvoir à terme devancer les États-Unis dans tous les domaines possibles.
Justement, Jean-Pierre Cabestan, sur Hong Kong, vous êtes en ce moment à Hong Kong, c'est une situation que vous suivez depuis longtemps et au plus près. On sait que Donald Trump, pour le coup, a été assez déterminé pour justement soutenir Hong Kong. Il y a eu récemment une loi qui prévoyait des sanctions contre les banques chinoises et les personnes impliquées dans la mise en place des mesures allant à l'encontre des accords de rétrocession de 97. Est-ce que Biden aura les mêmes positions que Trump sur la question de Hong Kong? Est-ce qu'il sera aussi actif pour essayer de contrer la charge de Pékin à l'encontre de cette démocratie hongkongaise?
Oui, je crois qu'il sera difficile à Biden de remettre en cause les décisions prises par l'administration Trump, parce que les démocrates, comme ça a été indiqué, sont quand même plus attachés à la protection des droits de l'homme que Trump, qui a découvert la question des droits de l'homme il y a environ un an et demi. Hein, avant, il s'en fichait un peu. Et en plus, la situation à Hong Kong ne fait qu'empirer. Hein. Donc on voit mal le nouveau président lever des sanctions. Comme vous le savez, quatre autres personnalités de Hong Kong ont été ajoutées sur la liste des personnes qui ne peuvent pas se rendre aux États-Unis et dont les avoirs aux États-Unis sont gelés. Et donc, à mon avis, Biden, sur Hong Kong, mais plus généralement sur la politique à l'égard de la Chine, fera preuve d'une grande continuité. Je pense que les deux parties ont atteint une espèce de consensus sur la question de la Chine. confrontation et coopération, confrontation en mer de Chine du Sud si la Chine avance trop, confrontation détroit de Taïwan si la Chine menace trop Taïwan, et aussi autour du Japon si la Chine veut fait mine de reprendre le contrôle des Senkaku, ces îles disputées avec Tokyo. Donc je pense que sur toutes ces questions il y aura confrontation. Et est-ce que l'élément important, à mon avis, qu'il faut ajouter, c'est que, et c'est ça qui fait craindre aux Chinois l'administration Biden, c'est qu'il y aura plus de coordination avec les Européens et les alliés asiatiques, comme le Japon et la Corée. Et donc, en fait, ce que risque d'affronter Pékin, c'est un front uni de pays à la fois libéraux, démocratiques, mais aussi attachés à une forme d'ouverture économique que la Chine refuse d'endosser.
On est avec vous, Jean-Pierre Cabestan, et vous, Alice Ekman, dans cette série consacrée à la gouvernance au temps du Covid. On parle de Xi Jinping. On va aller du côté du Vietnam. On aurait pu imaginer que le Vietnam, pays pauvre, très peuplé, frontalier de la Chine, était loin d'être le mieux armé pour affronter le Covid-19. Mais il se trouve que l'épidémie, en tout cas visiblement, a été admirablement contenue. On en parle tout de suite.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Les efforts incessants déployés par le gouvernement et le peuple vietnamien dans sa lutte contre le Covid-19 ces derniers temps ont été soulignés par de nombreux journaux et experts du monde
entier. New York Times a publié le 27 mars un article précisant que grâce aux efforts contre le SARS-CoV-2, le Vietnam a fait en sorte que le nombre de personnes infectées soit inférieur à celui de beaucoup de ses voisins. Le journal philippine rappelé a cité le Financial Times du Royaume-Uni.
Voilà, extrait de la branche en langue française de l'agence vietnamienne d'informations qui rapporte dans un bulletin officiel les coupures de presse qui saluent la réponse du pays à la crise du coronavirus. Alors comment le pays est parvenu à un tel résultat? Et surtout, pourrait ce miracle vietnamien pourrait-il être utilisé comme une aubaine pour les pouvoirs en place? Bonjour Benoît de Tréglaudet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de recherche et directeur du domaine Afrique-Asie-Moyen-Orient à l'IRSEM, également chercheur au Centre Asie du Sud-Est de l'EHESS. Officiellement, le pays a enregistré jusqu'ici 35 décès seulement. Est-ce que ce succès est aussi éclatant que cela? Et comment le pays est parvenu à limiter à ce point cette crise sanitaire?
Alors, la première chose, un chercheur a toujours un peu de mal à croire à la notion de miracle. Et c'est clair que les réussites vietnamiennes en matière de politique sanitaire découlent d'abord de choix de gouvernance qui sont clairs. Et un choix de gouvernance, on l'a rappelé dans le cas de la Chine, qui est très très influencé en fait par un protocole sanitaire qui était celui de la Chine. Ensuite, c'est vrai que le contexte politique au Vietnam cette année est un peu différent. On est dans une année qui précède le 13e congrès du Parti communiste vietnamien, qui va donc le prochain congrès du parti, qui va avoir lieu en janvier prochain. Et traditionnellement, le parti a besoin de moteurs pour pouvoir montrer encore une fois à sa population que il remplit ses fonctions de protecteur. Hein. Le parti est d'abord un protecteur. Et donc, quand le Covid est arrivé, le secrétaire général du parti et président de Nguyen Phu Chong, en mars dernier, a fait un discours extrêmement martial, disant que désormais, la mission du parti, c'était de partir en guerre en temps de paix contre ce virus. Et là, le parti a retrouvé sa nature première, qui est celle d'un parti de guerre, un parti qui sait mobiliser sa population et qui l'a su, quand on regarde l'histoire tumultueuse de ce pays depuis 60 ans. Et depuis 6 mois, effectivement, le parti se prépare à cette reconduction ou à ce changement d'élite au pouvoir, et le virus arrive à point nommé d'une certaine façon pour reconfigurer et puis donner en fait à ce régime un ancrage social important.
Il faut dire reconduction ou renouvellement, vous le dites, il va y avoir bientôt ce congrès du Parti communiste vietnamien. On a un homme qui est en place, le Premier ministre qui pour l'instant conduit les affaires, Nguyen Xuan Phuc. Il va être reconduit? Il pourrait plus encore prendre un rôle encore plus important, un peu à la Xi Jinping du côté de la Chine? Est-ce qu'on peut faire ce parallèle-là?
Reconduction, oui, parce que c'est reconduction d'un système et d'un parti où il n'y a pas réellement en fait de distinction forte entre le secrétaire général président et la personnalité de Nguyen Xuan Phuc, le premier ministre actuel, qui, je le rappelle quand même, au début d'année n'était pas une personnalité qui était très en vogue dans le pays et qui était plutôt qui avait un profil assez bas et qui est sorti un peu victorieux de cette lutte contre le Covid depuis 6 mois. Mais non, effectivement, en janvier prochain, prochain, pour des raisons de limite d'âge, pour des raisons de poursuite de mandat, il y aura un renouvellement en fait de l'élite politique vietnamienne. Mais il faut savoir que traditionnellement, au Vietnam, il y a une culture de la contestation, on l'oublie un peu, il y a toujours ces gens qui mettent en avant effectivement ces clichés de la discipline collective ou du confucianisme dans ce type de société, mais non, la réalité c'est que les Vietnamiens sont un peuple qui discute politique, qui proteste, qui râle, qui contourne très régulièrement en fait les mesures de l'État, mais là, étonnamment, ce combat contre le virus a vraiment marqué en fait la population. Elle s'est pliée avec une docilité qui est quand même assez étonnante aux injonctions du pouvoir.
Et comment vous l'expliquez?
Véritablement, on contredit. Je l'explique notamment par cette tradition en fait de protecteur du parti de la population. Mmh. Et effectivement, la question du contrôle de l'ordre social, du traçage est extrêmement invasif d'une certaine façon pour la population. Tout ça a été accepté avec une certaine docilité. Le parti a répété et continue à le répéter dans les médias. Voilà, si on peut gérer la crise de la Covid, en fait, le parti peut tout gérer dans le pays. Il peut éradiquer la corruption, il peut enrichir les Vietnamiens, il peut apporter du bonheur au peuple. Et ce discours, il a marché, il marche. C'est ça qui est assez étonnant.
Donc il est plutôt renforcé, il sort renforcé de cette crise sanitaire. En tout cas, si ce modèle politique vietnamien, il ressemble à certains égards, en tout cas à celui de Pékin, en revanche, les relations entre les deux pays sont très loin d'être simple. On a une pression qui est considérable de la Chine concernant ses revendications territoriales en mer de Chine méridionale. Par ailleurs, on a quand même deux pays qui ont derrière eux des siècles et des siècles de tensions avec de longues périodes d'occupation du territoire par la Chine, ce qui a imprimé dans la culture vietnamienne un sentiment anti-chinois qui est quand même toujours assez prononcé aujourd'hui. Est-ce que cette crise du Covid, elle pourrait changer quelque chose dans la relation entre Pékin et Hanoï? Est-ce que ça va accentuer les tensions? Est-ce qu'au contraire, ça pourrait, pourquoi pas, les atténuer? Comment vous voyez les choses?
Alors là encore une fois, c'est un petit peu le côté le pain béni cette crise d'une certaine façon qui arrive au Vietnam, parce qu'à la fois d'un point de vue intérieur, elle a permis de consolider la place du Parti communiste vietnamien, et sur la scène internationale, cette diplomatie du Covid à la vietnamienne, qui d'une certaine façon est plus modeste que celle que la Chine a essayé de développer, mais qui a davantage marché. Vous avez évoqué mon intervention, la façon dont les Vietnamiens mettent en avant, mettent en scène et traduisent tous les articles publiés dans le monde sur ce soi-disant miracle vietnamien en matière de Covid. Et bien ça a permis également aux autorités vietnamiennes de contourner la difficulté chinoise. Cette difficulté chinoise, effectivement, qui s'est reproduite cette année dans des différents maritimes en mer de Chine méridionale, et ça c'est important à la veille d'un congrès qui est généralement suivi de près par les autorités chinoises, de ne pas avoir véritablement trop de confrontations avec Pékin. On verra ça après le congrès d'une certaine façon, et justement la question du Covid et puis la mise en avant en fait d'un protocole sanitaire, je le répète, au Vietnam, qui est très proche, très similaire à celui que la Chine a réalisé, a montré et a été aux autorités, aux dirigeants vietnamiens, que bon, il y avait quand même un dialogue, une coopération qui était réelle entre les autorités chinoises et les autorités vietnamiennes, et que ce virus, ça permettait quand même de dépasser les différends.
Mmh. Même si quand même on organise les choses pour construire un front anti-chinois. Le nouveau Premier ministre japonais, Yoshihide Suga, s'est rendu au Vietnam. Il était tout juste rentré en fonction. On a du mal de ne pas voir là une tentative, sinon de rapprochement, au moins l'ambition de contrer la puissance chinoise. Je ne sais pas comment le dire autrement.
Alors, cette tentative, d'abord, elle vient surtout de la part des Américains, de Trump, qui, avec sa stratégie d'Indo-Pacifique, a essayé aussi de mobiliser un front chinois et a intégré tardivement le Vietnam dans cet objectif-là. Et il faut aussi prendre en considération que cette logique d'équilibre entre les grandes puissances est à la base, est au centre de la politique étrangère vietnamienne, et qu'il n'était naturellement pas question pour les autorités de tourner le dos à cette main tendue américaine. Il y a trop d'intérêts en fait qui conduisent les Vietnamiens à vouloir balancer, rechercher un équilibre pour faire montrer effectivement, ou montrer aux Chinois qu'il y a une possibilité par ailleurs de dialoguer en multilatéral, et que les Vietnamiens joueront cette carte.
Et de ce point de vue-là, l'élection de Biden ne change rien? pour le Vietnam?
Alors étonnamment, comme dans beaucoup de régimes durs, on va dire, la personnalité de Trump était très très aimée, très très appréciée au Vietnam. Un sondage récent, la semaine d'avant les élections, a montré que 80% des Vietnamiens auraient voulu que Trump soit réélu président, parce que Trump était connu au Vietnam, alors que Biden ne l'est pas, et parce que Trump, pardonnez-moi l'expression, mais a un côté fort en gueule qui plaît aux Vietnamiens et qui permet de résister aux Chinois. Et ça, ils se disent que si eux ne sont pas capables de le faire, c'était bien que les Américains puissent le faire.
Merci.
Là, effectivement, c'est un peu l'expectative, qu'est-ce qui va se passer.
Merci beaucoup, Benoît de Tréglonnet, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à nos deux invités qui nous ont accompagnés depuis 11h. Jean-Pierre Cabestan qui était avec nous en direct depuis Hong Kong, qui est professeur à l'Université Baptiste de Hong Kong, qui est directeur de recherche au CNRS et qui avait signé chez Gallimard « Demain la Chine, démocratie ou dictature ?» pour l'interrogation. Un grand merci également à vous, Alice Ekman. Je rappelle que vous êtes analyste responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne, que vous avez signé cette année « Rouge vif, l'idéal communiste chinois » paru aux éditions de l'Observatoire et pour lequel vous avez reçu d'ailleurs deux prix, le prix du livre de géopolitique 2020 et le prix aujourd'hui 2020. Un grand merci également à vous. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table dans quelques minutes. Mais d'abord, c'est Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice, à distance, toujours par téléphone. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Merci également Brice d'être avec nous comme chaque jour. Les quatre années, Brice, durant lesquelles Donald Trump a occupé la Maison Blanche doivent-elles être considérées comme une simple parenthèse? Après quoi, ce serait business as usual aux États-Unis? Vous posiez la question, de nouvelles réponses ont été publiées.
Oui, les institutions américaines ont été soumises à un stress test, estime le fameux politologue Yascha Mounk. Et globalement, elles ont bien tenu. La meilleure preuve, c'est que le président sortant a pu être battu. Se débarrasser d'un leader populiste incrusté au pouvoir n'est pas la chose la plus facile du monde. Demandez donc aux Turcs, aux Hongrois ou aux Russes ce qu'ils en pensent. Reste que le pays demeure profondément divisé. Il va falloir tenter de réconcilier les camps et c'est pourquoi Joe Biden, que tant de commentateurs jugeaient comme un politique dépassé, va s'avérer au contraire comme l'homme du moment, selon Mounk. Un modéré, c'est ce qu'il fallait à l'Amérique après Trump. Biden a en effet évité l'étiquette de socialiste que Trump a cherché à lui coller durant toute la campagne. Ce qui lui a valu d'ailleurs sa forte progression en Floride, où les Cubains réfugiés réagissent avec animosité à l'évocation du socialisme. Il a pris cette distance, Biden, avec le Green New Deal, soutenu par l'aile gauche de son parti. Il n'a pas non plus adopté le programme Medicare for All, qui aurait institué une sorte de sécurité sociale aux États-Unis. Il s'est présenté comme un Obama-Biden démocrate, refusant donc l'idée d'un droit d'inventaire envers les deux mandats de Barack Obama, jugé bien trop timoré par le clan Bernie Sanders. Ce centrisme pourrait lui permettre donc de panser les plaies d'un corps social écartelé par 4 années de Trumpisme. Mais beaucoup de commentateurs sont en désaccord avec cet optimisme. Ils estiment que la victoire de Biden, même si elle est conséquente en vote populaire, près de 4 millions d'avance sur Trump, est encore trop étroite. Et surtout, le fait que Trump lui-même ait progressé de 5 millions de voix d'une présidentielle à l'autre démontrerait que le Trumpisme est loin d'avoir été extirpé. Ainsi, Larry Diamond, spécialistes reconnus de la Hoover Institution ont déduit qu'il faut enterrer l'espoir que le Parti républicain puisse se débarrasser du trumpisme à la faveur de cet échec électoral. Il rappelle que de l'aveu même de son gendre conseiller Jared Kushner, la conquête du parti de l'éléphant par Donald Trump a été considérée par son propre clan comme une OPA hostile. Trump a perdu, mais le trumpisme, lui, est bien vivant, écrit de son côté Stephen Walt dans la revue Foreign Affairs. Le Parti républicain va probablement conserver sa courte majorité au Sénat. Il progresse à la Chambre des représentants et il détient la majorité des postes de gouverneur. Dans le climat actuel, le président élu peut s'attendre à rencontrer pas mal de difficultés pour faire passer ses projets de loi au Congrès. Il pourrait être tenté de se consacrer de manière prioritaire aux affaires étrangères en attendant que les élections de midterm de 2022 produisent leurs effets. En effet, beaucoup de postes détenus par des républicains seront alors remis en jeu et les grandes réformes seraient alors repoussées à la seconde partie du mandat présidentiel.
Et alors Brice, cette fameuse politique étrangère, à quoi pourrait-elle ressembler dans ce cas ?
Eh bien, si l'on en croit toujours ce même Stephen Walt, deux camps s'opposent lorsqu'il est question du rôle des États-Unis dans le monde. Les uns favorisent une politique étrangère ambitieuse de forte présence américaine. Ils refusent que les USA renoncent à exercer un leadership mondial et ils entendent défendre certaines valeurs comme l'état de droit, la démocratie, l'ouverture des marchés. Mais un pourcentage plus significatif de l'électorat américain favoriserait plutôt que leur pays se montre plus sélectif dans ses alliances, plus prudent dans ses interventions, qu'il continue, comme l'ont fait Obama et Trump, à réduire sa présence militaire dans le monde. Pour autant, l'isolationnisme, la défense de la forteresse américaine qu'on a connue entre les deux guerres mondiales, n'a plus vraiment de défenseur aux États-Unis. Les deux options ont des défenseurs à droite comme à gauche, relève Walt. Dans le camp plutôt interventionniste, vous avez la vieille garde démocrate à gauche et puis les républicains mainstream à droite. Dans celui de la prudence et de la réserve, vous avez les progressistes à la Sanders à gauche et puis les libertariens à droite. Et Stephen Walt prédit que Biden, malgré son désir proclamé de renouer les alliances abîmées par Trump, mènera une politique étrangère plus en phase avec celle voulue par les progressistes. Mais si la politique étrangère est sa passion dominante, Biden aura bien trop à faire avec les problèmes auxquels sont confrontés les États-Unis pour s'engager dans des conflits lointains. Le Covid-19, une économie à faire redécoller, les inégalités raciales, etc., vont reconquérir tous ces soins. Trump ayant payé cher son manque de compétences et de sérieux dans ces différents domaines, Biden sait qu'il est lui attendu et que son opposition ne lui fera pas de cadeau.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, mais également sur l'application de Radio France. On vous retrouve demain et dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.